panorama économique.
Bon week-end à toutes et à tous, bienvenue à Panorama économique qui revient cette semaine sur le sit-in des agents et cadres de l'OCC à la primature. Ils voulaient obtenir du Premier ministre l'abrogation de son décret du mois de juin dernier, supprimant la perception par l'Office des frais en contrepartie des contrôles sur les biens alimentaires à l'importation, chose qu'ils n'ont pas pu obtenir. Les directeurs généraux, membres de l'Association africaine des institutions de financement et de développement, se sont retrouvés à Kinshasa dans une réunion d'évaluation pour deux jours. Les contenus dans votre magazine. La société de textile de Kisangani, Sotexki, relance la culture du coton à Mahagi. Cette relance se traduit, selon le directeur général de la Sotexki, non seulement par l'achat du coton produit par les paysans de l'Ituri, mais aussi par la promotion de la culture cotonnière dans la région. Voilà pour l'essentiel pour Panorama économique de cette semaine. Panorama qui reçoit Martin Fayoulou, c'est un grand gestionnaire. Vous allez le découvrir dans le minute qui suit. Et devant ce micro, Daniel Tambinzoni et Agan Pona Element pour vous présenter Panorama économique.
Panorama économique, le dossier.
Encore une fois, bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine rétrospectif de l'actualité économique de la semaine sur Radio Okapi. Coup de colère cette semaine à l'OCC, les agents et cadres de l'Office congolais de contrôle n'ont pas pu travailler lundi et mardi cette semaine.
Ce mouvement de colère était suivi dans toutes les provinces de la RDC où l'OCC est présente. Les travailleurs de Kinshasa se sont donné rendez-vous à la primature, faire pression sur le Premier ministre et obtenir la surséance de sa décision du mois de juin. Cette décision prive l'Office, selon les manifestants, des recettes nécessaires à son bon fonctionnement. Reportage.
Tout ça l'arrêt de travail parce que tout ça contre décret à Premier Mouzitu, Oezo, Koboto, Labiso, Tali.
L'effet du tali est seulement cela. Les agents et cadres de l'Office congolais de contrôle, plusieurs centaines, ont envoyé la primature cet avant-midi sur le coup de 10 heures, arborant des calicots sur lesquels on pouvait lire entre autres « La suppression du contrôle des produits alimentaires ne profite pas au peuple congolais ». Le Premier ministre est occupé à autre chose. Ce sont ses conseillers qui reçoivent les délégués syndicaux. Leur réponse aux revendications des travailleurs, vous êtes venu pousser sur une porte déjà grandement ouverte. Cela pour dire qu'une décision n'attend que la signature du chef du gouvernement pour surseoir à l'application du décret à problème. Pendant que les conseillers et les syndicalistes discutent à l'intérieur, les travailleurs et les éléments de la police anti-émeute dehors se regardent face à face, mais sans aucune mauvaise intention. Les délégués sortent de la primature et le président de la délégation syndicale fait le compte rendu.
Premier ministre, tukutani na ba conseil na ye ba FC biso boye bino boye ko fungola porte o eza deja ko fungwa ma balobi porte eza ko fungwa ma parce que deja mukanda ezali deja na mesa ya premier ministre oyo ezo ko répondre na memorandum ya ministre na biso tous si bango ke barriere à salaire na intérieur déjà est commis 4 mois 5 mois kaka likolo a décret wana na yango tolobi ke tant que bino bolongoli décret biso pe tokozala libanda ti tukuna tokomona mukanda balobi mukanda ekokoki koya lelo na pofa ou bien lobi.
Comme en unisson, les travailleurs ne sont pas contents des résultats des concertations. Ils veulent maintenir la pression jusqu'à obtenir l'abrogation de la décision de Adolphe Mouzito avant de reprendre le travail.
Nous ne sommes pas d'accord parce que tu commandes ma correspondance, tu sénat audience, pour la toute un premier ministre. Atikala koyama biso atamu kolomo kote. Nous avons compris que c'est un sabotage et c'est comme ça que tu commis na souka aujourd'hui nous sommes venus forcer la porte. Ils ne peuvent jamais nous dire que porte auto forcer le lot est ouvert. C'est pratique. Fort et du mensonge, nous ne sommes pas d'accord.
Le mouvement est très bien suivi dans toutes les provinces où OCC opère. Un manque à gagner assez important, aussi bien pour l'Office que pour le Trésor. Mais les travailleurs ferment les yeux. Ils se sont encore donné rendez-vous pour demain au même endroit pour attendre la levée annoncée par les conseillers du Premier ministre d'ici ce soir ou demain dans la journée. Rien n'a été fait le lundi, ni encore le mardi. Le travail a repris mercredi sur demande du vice-premier ministre, ministre de PTT, qui les a reçus mardi. Lui, Koya Gallo, leur a promis que le gouvernement de la République allait se réunir pour trouver une solution palliative à cette situation. Voilà, nous retrouvons au bout du fil notre invité. Il s'appelle Martin Fayoulou. Monsieur Martin, bonjour.
Oui, bonjour.
Voulez-vous bien vous présenter à ceux de nos auditeurs qui ne vous connaissent pas sous une autre casquette que ce grand politicien? Mais nous ne parlons pas de politique, nous parlons économie. Voulez-vous bien nous parler en une minute?
Bah écoutez, moi j'ai passé 20 ans de carrière dans la première compagnie pétrolière du monde, ExxonMobil, 10 ans au Congo et 10 ans à l'étranger, notamment aux États-Unis, en France, en Côte d'Ivoire, au Kenya, au Nigeria, au Mali et en Éthiopie. Donc mon dernier poste, c'était directeur général d'ExxonMobil Éthiopie. Voilà.
Merci bien, ainsi dit. Vous avez eu également à gérer la tension sociale au sein de votre direction générale partout où vous êtes passé. Et voilà, le lundi, mardi, il n'y a pas eu de travail à l'Office congolais de contrôle. Qu'est-ce que cela peut bien vous inspirer?
Mais comme les employés ont dit, hein, donc décret à problème. Décret à problème, et cela montre une fois de plus le manque de concertation dans ces pays. Comment est-ce que on peut supprimer les prestations, donc là où la société tire ses moyens, l'OCC, Office congolais des contrôles? Alors, je voulais d'abord savoir, l'objectif de ces décrets, si j'ai bien compris, c'était l'aliénation des taxes perçues illégalement. Mais dans les cadres de l'OCC, on ne parle pas d'une taxe, on parle bien d'une prestation, parce que la qualité est importante. Nous devons, avant de recevoir des choses ici, comment dire, au Congo, il faut vérifier la qualité, et c'est l'OCC qui doit le faire. Mais l'OCC, en le faisant, l'OCC doit payer ses employés comment? L'OCC doit payer ses charges comment? Vous amputez une entité de 40% de ses revenus, et comment voulez-vous que cette entité puisse travailler?
Monsieur Martin, il faut aussi assainir le climat des affaires et pousser les investisseurs à venir au Congo, par exemple.
Au contraire, ça n'a rien à voir à assainir le climat des affaires. Le contrôle est impératif. Je vous ai dit que j'ai travaillé à ExxonMobil. La qualité, vous savez, il y a des mesures, il y a ce qu'on appelle la certification ISO. Mais nous, même dans nos stations-service, il fallait mettre de la qualité, mais la qualité, c'est la vie des citoyens. Mais si vous faites entrer du riz avarié, comment on va s'en apercevoir? D'abord, la question qu'on devait se poser, est-ce que la prestation de l'OCC influe sur le prix final? Quand je prends par exemple un carton de 30 kilos de Piodi, je demande à l'OCC, on me dit que la prestation OCC, l'incidence OCC, c'est de 54 cents. C'est-à-dire la moitié d'un dollar, 69,5 autres dollars, c'est autre chose. Quand je prends le riz, un sac de riz de 50 kilos, parce qu'on parle de riz ici, on me dit que l'incidence de
des prestations
riz,
de l'OCC,
donc la prestation OCC, c'est de 25 cents. Et les riz, aujourd'hui, on l'achète entre 60 et 70 dollars. Mais 25 cents, pour la vie des gens, vous devez supprimer cette prestation.
Donc, mais M. Faoul, il faut peut-être aussi que les agents de l'OCC soient sincères, parce qu'il est arrivé plus d'une fois qu'on retrouve sur le marché des denrées avariées, alors qu'eux, ils étaient en train de prester le contrôle des produits alimentaires et percevaient les frais. Nous estimons que parfois, les raisons que ces agents avancent, c'est totalement faux. C'est tout simplement qu'on leur a enlevé une entrée par laquelle ils avaient certains frais peut-être illicites.
Non, madame, replaçons les choses dans le contexte. Ce que les agents font, c'est autre chose par rapport à ce qu'on décide dans un pays. Le contrôle est impératif. L'OCC a été institué par l'État congolais parce que dans toutes les sociétés du monde, dans tous les pays du monde, vous avez ailleurs SGS et dans d'autres pays. ce que les agents font, c'est un manque de contrôle parce que nous ne sommes pas un état de droit où les agents font n'importe quoi. Je ne suis pas à ce niveau-là. Je suis au niveau des principes. Est-ce que nous acceptons les principes de contrôle? Nous acceptons qu'on ne peut pas tuer les Congolais parce que les Congolais, on doit les protéger. On doit les protéger par des institutions de la République, des organismes que la République met en place. Et dans ces cas-ci, c'est l'OCC. Est-ce que nous acceptons que le blé qui entre dans les pays, que ce blé soit contrôlé, parce que le contrôle du blé détermine sa valeur, détermine sa qualité. Et sa qualité, quand on le passe dans le moulin et dans les boulangeries, et ça détermine la qualité du pain. Est-ce qu'on accepte de donner aux Congolais des produits contrôlés, des produits qui ne vont pas
nuire à la consommation?
C'est de ça qu'on parle.
Voilà.
On ne parle pas d'autre chose.
Nous vous gardons le temps de prendre ce deuxième sujet. Nous avons plusieurs sujets pour 30 minutes seulement. C'est le temps de prendre ce deuxième sujet de Panorama économique, lundi toujours, la nouvelle tarification de la compagnie africaine d'aviation CAA sur les grandes destinations était entrée en vigueur.
CAA, qui vient d'acquérir une nouvelle flotte aérienne, a revu à la baisse les prix de ses billets sur les grandes destinations. C'est ce que vous avez dit, Daniel. Et le directeur commercial de CAA, Jeff Kabemba, en a parlé avec vous. Cette semaine, on l'écoute.
Pour le moment, nous avons trois Airbus 320 qui sont sur place, de nouvelle génération. Nous avons un Fokker 100 de 100 places et nous allons recevoir bientôt le deuxième Fokker 100. Et nous avons quatre Fokker 50.
Vous avez annoncé 34 destinations que vous allez desservir. Avant, vous étiez à combien de destinations?
Nous avions une moyenne de 26 à 27 destinations. Dans l'Équateur, par exemple, nous avons ajouté Boindé, Bassankoussou. Nous avons ajouté Kalemi, Kamina et Kongolo. Et dans l'Est, nous sommes en train de travailler pour voir où les pistes où on peut encore être opérationnel pour le genre des appareils que nous avons. Et je profite aussi à signaler que nous avons diminué les prix sur certaines grandes destinations.
Justement, le directeur a annoncé cette baisse-là sur la ligne Lubumbashi. À combien on payait avant pour la ligne Kinshasa-Lubumbashi et vous le réduisez à combien?
Il y a quelque temps, on payait à l'aller simple à $320. Pour le moment, nous sommes à 275 et nous sommes en train de travailler parce que nous comptons sur le nombre. Si on a beaucoup plus de passagers, je pense qu'on pourra jouer sur le prix, même sur les autres destinations. Nous y travaillons.
Monsieur Jeff, une petite curiosité. Pourquoi le prix avait augmenté et tout d'un coup, vous le rabaissez de vous-même? Qu'est-ce qui a concouru à cette baisse?
Non, c'est-à-dire que nous essayons de ronger un peu sur la marge bénéficiaire pour essayer de garder notre clientèle. Étant donné que nous avons un nombre important d'avions qui sont arrivés, nous ne devons pas les garder au sol, mais plutôt les faire voler.
C'est bien de revoir les prix à la baisse, mais vous, Monsieur Martin Fayoulou, serez-vous de l'avis de ceux qui pensent que c'est la concurrence qui a contraint CAA à cet exercice de revoir à la baisse ses prix sur les grandes distances?
Mais oui, mais je crois que c'est tout. Le directeur vous a dit, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il y a d'abord les économies d'échelle. Et quand ils ont plus de passagers, donc il y a, vous savez, dans une société, il y a des frais fixes, il y a des frais variables. Étant donné que les frais fixes, si vous amenez 1000 passagers, vous avez les mêmes frais fixes. Et si vous avez mené maintenant 10 000 passagers, les frais fixes restent les mêmes. Et donc, vous pouvez jouer sur les prix. Et évidemment, ce que vous dites aussi, la concurrence, c'est ça l'avantage de la concurrence. Je crois que ces deux phénomènes combinés ont fait que la société CAA puisse revoir ses tarifs. Et nous ne pouvons que féliciter la société. Et nous ne pouvons que aussi encourager la concurrence, parce que dans une économie, dans un pays, dans une société, il faut qu'il y ait concurrence et une concurrence loyale, bien sûr. Donc, nous saluons cette mesure et nous saluons donc l'acquisition des appareils par la compagnie CAA.
Dernier dossier de la semaine, le Fonds de promotion de l'industrie FPI a reçu du 8 au 9 dernier ses pairs de l'Association internationale africaine des institutions de financement du développement. Ce forum a permis aux membres de l'association de s'auto-évaluer par rapport aux principes de bonne gouvernance d'entreprise. Le président de l'AIAFD a exhorté les institutions qui ont identifié leurs faiblesses à les corriger et celles qui se sont bien comportées à maintenir le cap. C'est un reportage qu'avait réalisé pour vous au courant de la semaine à Gantpona Elema.
Ce forum avait pour objectif l'évaluation par les pairs à l'aide des normes et dispositifs adéquats mis en place par l'association. Selon le président de l'AIAFD, Peter Noni, la récapitalisation des institutions ainsi que la publication de l'évaluation faite au cours du forum sont quelques recommandations auxquelles les participants devraient se conformer. Rendre publics les résultats de l'évaluation, selon lui, permettrait à ces institutions d'obtenir des ressources financières et de l'assistance technique des bailleurs de fonds. Au nombre des recommandations figure également l'amélioration de la gouvernance d'entreprise. À l'issue de cette évaluation, le Fonds de promotion de l'industrie hôte et organisateur du forum, quant à lui, reconnaît qu'il devrait s'atteler à l'amélioration de son système comptable afin de l'adapter aux standards internationaux. Notons que le prochain forum de l'association aura lieu en novembre 2012 et sera organisé conjointement avec les institutions de financement du développement du continent asiatique.
Merci Agathe. Nous retenons que il est demander à ces structures de faire en quelque sorte des audits internes et de publier, de mettre à la place publique les résultats de ces auto-évaluations. Monsieur Martin Fayoulou, nous assistons souvent à plusieurs audits, à plusieurs évaluations dans nos entreprises, mais les résultats ne sont jamais connus.
Mais oui, les résultats ne sont jamais connus, mais écoutez, c'est une très bonne chose que les institutions de financement et de développement se mettent ensemble et discutent. Et je crois qu'un pays sérieux doit commencer par ces institutions. Mais nous, vous avez parlé du fonds de promotion de l'industrie, mais je n'ai pas entendu parler de la SOFIDE, parce que la SOFIDE aussi, procède au financement et au développement. Alors, je crois que dans notre pays, il y a un problème. Prenons l'exemple d'un pays comme le Kenya, que je connais très bien. Au Kenya, vous avez 5 structures de l'État qui financent le développement. Je vais vous donner Agriculture Finance Corporation pour l'agriculture, le Kenyan Tourism Development Corporation pour le tourisme, l'hôtellerie, et ainsi de suite. Vous avez l'Industrial Development Bank, IDB. Vous avez le Kenyan Industrial Estate. Vous avez l'Industrial Credit Development Corporation. Vous voyez, toutes ces structures sont là pour le développement. Même les petits, entrepreneurs, même les gens qui sont dans l'informel. Vous prenez par exemple le Kenyan Industrial Estate. Vous connaissez le premier ministre kenyan. C'est un millionnaire, mais c'est un homme d'entreprise, hein, Raila Odinga. Il a commencé comment? Par cette structure. C'est un incubateur. Cette structure qui l'a amené aujourd'hui, et voilà, sa société est devenue une grande société. Qu'est-ce que nous faisons ici au Congo? Il y a des jeunes gens, ingénieurs, techniciens qui sortent des universités, qui sortent de l'ISTA et d'autres structures. Qu'est-ce que nous faisons? Comment on peut aider ces gens-là à être eux-mêmes employeurs, à être,
initiateurs d'emplois
pour développer ces pays? Donc, au lieu, par exemple, d'aller voir avec les Chinois, de prendre l'argent pour donner dans des structures qui sont douteuses, on pourrait prendre cet argent-là, donner au FPI, donner à la SOFIDE et pousser ces gens-là à aller dans les entreprises privées, encourager les privés pour développer la société. Vous savez, au Kenya, par exemple, je vais continuer avec les Kenyans, ils sont allés très loin. Ils ont fait ce qu'on appelle « village polytechnique ». Dans des villages, on voit les jeunes gens qui sont ingénieurs, qui développent des structures. Il y en a même qui ont développé des panneaux solaires. Et aujourd'hui, les Kenyans, allez voir ce qui se passe au Kenya. Alors, qu'est-ce que nous faisons ici? Ce sont les ministres, ce sont les gouverneurs, ce sont
les députés.
Des gens qui ne multiplient pas des richesses. C'est eux qui prennent même des crédits dans ces banques-là.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
En plus bref, quelques nouvelles de la semaine. Écho d'économie est revenu cette semaine sur le contrat entre le gouvernement congolais et BHP Billiton, qui a renouvelé son contrat avec le gouvernement congolais le week-end dernier.
Le premier protocole d'accord conclu pour la période 2005-2011 n'a pas pu se matérialiser comme il se fallait suite à l'insuffisance de l'énergie électrique. Et ce nouveau contrat, valide pour 5 ans, permettra à BHP Billiton à implanter sa fonderie d'aluminium dans le Bas-Congo.
Paralysie des activité économique toujours lundi à Mangurejipa, nous sommes au Nord Kivu.
La population a observé cette journée ville morte pour réclamer la restitution d'une prétendue dame Jeanne d'or qui serait vendue par les autorités administratives et policières à la société minière Longcor, a indiqué un député provincial. Selon la même source, cette dame Jeanne d'or aurait été découverte sur une borne datant de l'époque coloniale. Le député réclame néanmoins une enquête de la province. Le responsable des ressources humaines au sein de Longcor, Godefroy Ilunga, nie l'existence de toute transaction entre sa société et les autorités précitées.
Nous en parlions mercredi, la spéculation du taux de change à Kananga au Kasaï occidental.
Les candidats aux prochaines élections ont amené sur eux des sommes importantes en devises américaines et ne se seraient pas adressés à la banque pour la conversion en monnaie nationale, a déclaré à Radio Kapi le responsable de la banque sur place à Kananga. L'échangeur de monnaie qui manipule des petites sommes en francs congolais, a-t-il poursuivi, ne sont plus en mesure de tenir et du coup spéculent sur le taux de change depuis le début de la semaine. Le taux dans les banques commerciales n'a pas changé, 920 francs pour le dollar. Les cambistes, eux, appliquent un taux entre 750 et 820 francs.
Et puis, hausse de prix de l'essence à Kalima pour terminer cette série, Agathe.
Kalima, c'est à 101 km au nord-est de Kindu, le chef-lieu de la province du Maniema. Selon notre correspondant sur place, le prix du litre est passé de 2500 francs à 2800 francs congolais. Les revendeurs expliquent cette hausse par une carence dans les grands dépôts de Kalima et les moteurs qui déplorent cette situation menacent de hausser le prix du transport en commun dans cette cité.
Panorama économique, matière première.
Le président de la République, Joseph Kabila, a inauguré lundi l'usine d'extraction industrielle d'or. L'usine appartient à l'entreprise Barnro Corporation, située dans le territoire de Mwenga, nous sommes au Sud Kivu. Cette entreprise canadienne exploite 4 concessions dans le Sud Kivu et une partie dans la province du Maniema. L'inauguration a concerné la phase 1 qui devra produire plus d'un million de grammes d'or par an. C'est un reportage de notre consoeur Astrid Mujinga.
Selon les responsables des Banro Corporation, l'usine de Twangiza a une capacité totale probable de plus de 400 millions de grammes d'or. Et c'est la toute première nouvelle mine commerciale en RDC depuis 50 ans. L'exploitation de l'or se fera sur 4 sites, à savoir Twangiza, Lugushwa, Namoya et Kamituga. Ces sites s'étendent sur une superficie d'environ 2616 km². L'entreprise Banro dit pouvoir favoriser le développement de la région par la formation et la création d'emplois, favoriser le renforcement des capacités de l'entreprise en charge et la population, la protection de l'environnement, la santé et l'éducation. Banro s'engage aussi à construire des hôpitaux et des écoles de métiers. Ces écoles vont pouvoir servir, ajoutent les responsables de Banro, à résorber tous les mineurs qui œuvraient jadis dans l'exploitation artisanale de l'or. La société civile, pour sa part, s'interroge si tous ces projets seront réalisés comme il se doit au profit de la population, à la hauteur des quantités d'or qui seront produites. Bukavu, Astrid Mujinga, Radio Okapi.
Bon week-end à toi, Astrid Mujinga. Et c'est le moment de retrouver au téléphone notre invité, Martin Fayoulou. Il est homme d'affaires aussi, hein, il est homme d'affaires, opérateur économique. Voilà, monsieur Martin, une usine d'extraction industrielle de l'or, c'est quand même une bonne chose. Il faut passer de l'artisanat à l'industrie.
Mais tout à fait, c'est une très bonne chose. Vous les avez dans des pays comme le Mali et partout en Afrique. Hein. C'est une très bonne chose, mais ce que je déplore, nous sommes en période de campagne. Et en période de campagne, Banro Corporation, c'est une entreprise privée et qui n'a rien à voir avec le chef de l'État. Et l'inauguration pendant la campagne ne doit pas se faire par le chef de l'État. Donc nous déplorons cela, mais nous encourageons cet investisseur à continuer dans ce sens et parce qu'on en a besoin, ça va créer des richesses, ça va créer des emplois et c'est une très bonne chose.
Non seulement Banuro, il faut encourager aussi d'autres entrepreneurs qui seraient tentés par le secteur minier de la RDC de passer de l'artisanat à l'industrie, ça créera vraiment de la richesse comme vous le dites.
Tout à fait, nous sommes totalement d'accord à ce point-là et nous devons créer de la valeur ajoutée. Il faut de la valeur ajoutée, il faut que Banro aussi puisse voir le développement communautaire. Qu'est-ce que Banro propose pour le développement de la communauté? Et voilà, moi j'étais directeur général des mobiles, je connais bien le pays comme le Mali où il y a beaucoup d'extractions d'or et dans les environs, il y a des écoles, de métiers.
Des bonnes écoles alors.
De développement communautaire. Il faut que les populations des Mwenga, comme vous avez dit, les populations du Sud Kivu et du Maniema profitent de ce développement, parce que la richesse vient de notre sous-sol. Alors, si ça vient de notre sous-sol, il faut que ces populations profitent. Ceux qui ont du pétrole aujourd'hui profitent. Pourquoi nous, Congolais, nous ne pourrons pas profiter des richesses qui viennent de notre sol et de nos sous-sols, de notre sous-sol?
Panorama économique, reportage.
La société textile de Kisangani Soteski relance la culture du coton à Maegi, territoire situé à 200 km au nord de Bunia. Selon Rija Joza Boumalori, directeur général de cette industrie textile de la province orientale, ce programme de relance se traduit par l'achat des cotons produits par les paysans, mais aussi par la promotion de la culture cotonnière dans la région. Des détails dans ce reportage produit par notre confrère Jean-Paul Bassila depuis Bunia.
Depuis ce jeudi, 60 tonnes de coton en provenance du Mahagi sont en route vers l'usine des productions textiles de la Soteski à Kisangani. Il y a 4 mois, cette industrie textile avait distribué des semences de coton à plus de 800 paysans des Mahagi. Elle compte promouvoir leur production en mettant à leur disposition des moniteurs agricoles. Avec ces actions, la Soteski compte empêcher la sortie du coton produit en RDC vers l'Ouganda, comme c'est le cas. Rija Joza, DG de la Soteski.
On a créé une nouvelle société qu'on appelle Société Cotonnière des Mahagi. Le but de récolter tout le coton qui est produit à Mahagi et de ne pas le voir passer de l'autre côté de la frontière en Ouganda. Et maintenant, nous sommes sûrs, comme nous contrôlons la source, de produire le coton nécessaire pour faire travailler 500, 600 travailleurs.
Sur terrain, la nouvelle est saluée par des paysans qui produisent les cotons pour empêcher la sortie de la production vers l'Ouganda. Oudaga Mateso suggère à la Soteski de revoir son prix d'achat à la hausse. Le prix des 3000 shillings les kilos n'équivaut qu'à 1 dollar. Le mieux serait qu'ils achètent au moins à 2 dollars les kilos. Déjà, les Ougandais achètent à 5000 shillings et pourtant, ils n'ont pas des cotons chez eux. Ils n'achètent que chez nous. À Mahagi, la Soteski vient d'acquérir de son ancien partenaire, la Côte des Nord, l'usine d'égrenage de coton. Bunia, Jean-Paul Bassila, Radio Okapi.
Merci aussi à toi, Jean-Paul Bassila. Bon week-end. Et c'est le dernier virage de panorama économique de cette semaine, analysé et commenté par Martin Fayoulou, opérateur économique homme d'affaires. Voilà, monsieur Martin, vous avez suivi la Soteski qui relance l'achat de coton. C'est encore une bonne nouvelle.
Le climat des affaires n'est pas aussi mauvais que cela.
Non, mais écoutez, madame, le climat des affaires. Non, écoutez, vous savez que dans les années 60, nous étions parmi les premiers pays producteurs du coton en Afrique. Et vous regardez l'étendue de ces pays. Et vous avez aujourd'hui les Mali, vous avez les Ghana qui produisent des milliers de tonnes. Pour le Mali, je crois que l'année dernière, ils ont produit plus de 400 000 tonnes de coton. Et il faut encourager cela. Je peux vous dire, on devrait déjà, dans ces pays, commencer à nous donner des statistiques en disant que ça fait 10 ans que nous sommes sortis de la guerre.
Oui.
Et depuis ces 10 ans, où est-ce que nous en sommes? Nous encourageons la Soteski, nous encourageons toutes ces sociétés, tous ces investisseurs, mais l'État doit faire un effort capital. Je vous ai parlé du Kenya, je vous ai parlé de Agricultural Finance Corporation. Il faut qu'on finance les agriculteurs. Il faut des structures pour cela. On ne peut pas laisser les populations, comment dire, se livrer à elles-mêmes. il faut des structures étatiques pour encourager les paysans. Donc c'est une très bonne chose que Sotesky s'en occupe, et nous voulons cette promotion de la culture cotonnière dans notre pays, parce que nous avons cet avantage d'avoir un sol fertile pour ça.
Merci beaucoup Martin Fayoulou d'avoir accepté notre invitation. Merci pour les analyses et commentaires de toute l'actualité économique de la semaine. Nous pensons certainement que ce n'est pas la première ni la dernière fois que vous répondiez à notre invitation dans cette émission.
Merci à vous Radio Okapi, et merci en tout cas pour tout ce que vous faites, parce que vous informez bien la communauté congolaise. Merci beaucoup.
Merci bien, et merci aussi à vous Agathe. On met un point final à Panorama économique.
Voilà, Panorama économique, c'est fini. Le prochain rendez-vous avec l'actualité économique, c'est à partir de lundi, 18h17, heure de Kinshasa, avec Écho d'économie. Et Panorama économique avec un autre invité, ce sera déjà samedi, 12h30, heure de Kinshasa. À tous nos internautes et à tous nos auditeurs, bon week-end.
Bon week-end aussi à Paul Mukeo qui était à la réalisation technique de cette émission. Très bonne suite de programmes sur Radio Okapi.